Jacques Lacan, séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, le 19 mai 1971.
Je commence par la brute enceinte de ce que j'ai à vous dire pourrait s'exprimer ainsi. C'est que dans ce que nous explorons à partir d'un certain discours, dans l'occasion le mien en tant que c'est celui de l'analyste, disons que ça détermine des fonctions. En d'autres termes, que les fonctions sont déterminées qu'à partir d'un certain discours. Alors, à ce niveau, quand des fonctions sont déterminées par un certain discours, l'équivalence écrit c'est la jouissance. Naturellement, ce n'est qu'asable, car l'intérieur de cette première articulation des fonctions déterminé par un discours disons que ça tient exactement la même place à l'intérieur de ces fonctions. Ce dit étant énoncé comme ça tout abrupt, pourquoi mettiez à l'épreuve. Vous verrez que ça vous mènera toujours quelque part. Et même, de préférence, à quelque chose d'exact. Ceci, bien sûr, ne dispense pas du soin de vous y introduire par les voies qui conviennent, et de savoir celles, non pas qui le justifient pour moi, étant donné d'où je vous parle, mais celles par lesquelles ça peut s'expliquer. Je suppose. Je ne suppose pas forcément que je m'adresse ici toujours à des analystes. Au reste, c'est bien ce qui fait que mon discours n'est pas facilement suivi. C'est très précisément en tant qu'il y a quelque chose qui, au niveau du discours de l'analyste, fait obstacle à un certain type d'inscription. Cette inscription, pourtant, c'est ce que je laisse, c'est ce que je propose. C'est ce que j'espère qui passera d'un point. Si l'on peut dire, le discours analytique prenne un nouvel élan. Alors, il s'agit donc de rendre sensible comment la transmission d'une lettre a un rapport avec quelque chose véritable dans l'organisation du discours, quel qu'il soit, à savoir la puissance. Pour ça, bien sûr, il faut que, à chaque fois, je vous mette au ton la chose. Comment le faire? Si ce n'est à rappeler l'exemple de base dont je suis parti, c'est à savoir que c'est très expressément d'étudier la lettre comme telle, en tant que quoi, en tant que, je l'ai dit, elle a un effet féministe, que j'ouvre mes écrits. Cette lettre, en somme, je l'ai souligné encore la dernière fois, elle fonctionne très spécifiquement à ceci que personne ne sait rien de son contenu et que jusqu'à la fin du compte, personne n'en saura rien. Elle est très exemplaire. Elle est très exemplaire en ceci que, dans le monde, au Benet encore, je pense que même au Benet, l'idée n'est pas venue que cette lettre est quelque chose, aussi sommaire, aussi grossier, que quelque chose qui portera le témoignage de ce qu'on appelle communément un rapport sexuel. Encore que ce soit écrit par un homme, et, souligné par un grand, et à une reine, il est évident qu'il est, que c'est pas ça qui ferait un drame avec cette lettre, qu'il est la tenue d'une cour, si je puis dire. C'est-à-dire de quelque chose de fondé, c'est la meilleure définition qu'on en puisse donner. Sur la distribution de la jouissance, il est de la tenue d'une cour, que dans cette distribution, elle met ce qu'on appelle à proprement parler le rapport sexuel à son rang, c'est-à-dire, évidemment, plus bas. Personne n'y relève comme notable les services qu'une grande dame peut à ce titre recevoir d'un laquais. Avec la reine, bien sûr, et justement parce que c'est la reine, les choses doivent prendre un autre accent. Mais d'abord, donc, il est posé ce qui est expérience, n'est-ce pas, qu'un homme né est celui qui, je puis dire de race, ne saurait prendre ombrage d'une liaison sur l'épouse qu'à la mesure de sa décence, c'est-à-dire des formes respectées. Seule chose qui pourrait faire objection est bien sûr l'introduction bâtarde dans la lignée, mais même ça, après tout, ne peut servir à un rajeunissement d'un récent. Vous se voit évidemment ici dans un cadre qui peut ne pas vous être spécialement présentifié dans la société actuelle. N'en est pas moins exemplaire et fondamental pour ce qui est raisonné des rapports sociaux. À quoi se voit, dis-je en somme, il n'y a rien de tel qu'un ordre fondé sur l'artifice pour faire apparaître cet événement qui, lui, en apparence, est justement celui qui doit paraître irréductible dans le réel, à savoir la fonction du besoin. y a un ordre dans lequel il est tout à fait mis à sa place. Qu'un sujet si haut placé qu'il soit se réserve cette part de jouissance irréductible, la part minimale à ne pas pouvoir être sublimée comme s'exprime précédemment. Seul un ordre fondé sur l'artefact que j'ai spécifié, la cour, pour autant qu'elle redouble l'artefact déjà de la noblesse, de ce second artefact d'une distribution ordonnée de la jouissance, c'est seulement là que peut décemment trouver sa place le besoin expressément spécifié comme tel, et le besoin sexuel. Seulement, ce qui paraît, d'un côté, spécifié et naturel, être ce qui, je dirais, du point de vue de théorisation sociologique du rapport sexuel, pourrait faire partie d'un besoin, ce qui doit en résulter, à savoir la reproduction. Nous constatons que si l'artefact est satisfaisant à une certaine théorisation primaire d'un côté, de l'autre, il laisse évidemment la place à ceci, c'est que la reproduction peut aussi bien, dans ce cas, n'être pas la reproduction, je dirais, entre guillemets, légitime. Ce besoin, c'est irréductible. Dans le rapport sexuel, on peut admettre, bien sûr, qu'il existe toujours, et Freud l'affirme. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que il n'est pas mesurable tant qu'il n'est pas expressément, et il peut l'être que dans l'artefact de la relation à l'autre, avec un contact, il n'est pas mesurable. C'est bien l'élément d'indétermination. Où se signe ce qu'il y a de fondamental, c'est très précisément que le rapport sexuel n'est pas inscriptible, n'est pas fondable comme rapport. C'est bien en quoi la lettre dont je pars pour en ouvrir mes écrits se désigne de ce qu'elle est et de ce en quoi elle indique tout ce que Freud lui-même développe, c'est que si elle sert quelque chose, c'est que par l'intermédiaire de l'inconscient, nous entrevoyons que tout ce qui est du langage a affaire avec le sexe, et dans un certain rapport avec le sexe, mais très précisément en ceci, que le rapport sexuel ne peut, au moins jusqu'à l'heure présente, d'aucune façon s'y inscrire. Le prétendu de faire sexualisation par la doctrine freudienne, de ce qu'il en est des fonctions, on peut appeler la condition de les bien situer, de les situer de l'ordre du langage. La prétendue sexualisation consiste essentiellement en ceci, que ce qui devrait résulter du langage, à savoir que la relation sexuelle, d'une façon quelconque, puisse s'y inscrire, montre précisément, et ceci dans le fait, montre son échec, elle n'est pas inscriptible. Vous voyez là déjà. Fonctionner ceci qui fait partie de cet effet d'écart, cet effet de division, qui est celui auquel nous avons régulièrement toujours affaire. Et c'est bien pour cela qu'il faut en quelque sorte vous y former. C'est que j'énonce, par exemple, ceci, que le rapport sexuel, c'est justement dans la mesure où quelque chose échoue. Échoue à ce qu'il soit. Est-ce énoncé dans le langage? Mais justement, ça n'est pas énoncé, j'ai dit. C'est inscriptible. Inscriptible en ceci que ce qui est exigible, que ce qui est exigible. Pourquoi? Il y ait fonction, c'est que du langage, quelque chose puisse se produire, qui est l'écriture expressément comme telle de la fonction, à savoir c'est quelque chose que déjà je vous ai plus d'une fois symbolisé de la façon la plus simple.
It's
sexuelle, et il n'est parfait que précisément. Il ne peut être incarné que dans des êtres de fiction. C'est en tant que ceci que le fait qu'une lettre lui soit adressée prend la valeur qu'il désire pour la vie. M'énoncer dans mes propres propos ceci, il s'agit de la lettre et bien celui de la femme, lorsqu'elle fait valoir son être en le fondant hors de la loi qui la contient toujours, de par l'effet de ses origines, proposition de signifiant, voire de fétiche. Il est clair que sans l'introduction de la psychanalyse, une telle énonciation, qui est pourtant celle dont procède, je dirais, la révolte de la femme, une telle énonciation peut te dire que la loi la contient toujours, de par l'effet de ses origines en position signifiant l'art de fétiche, serait bien entendu, je le répète, hors de l'introduction de la psychanalyse, être énoncée. Donc, c'est précisément ceci que rapport sexuel, et si je puis dire, étatisé. C'est-à-dire, en étant incarné dans celui du roi et de la reine, mettant en valeur de la vérité la structure de fiction, c'est à partir de là que prend fonction et fait la lettre qui se pose sûrement d'être en rapport avec la déficience marquée d'une certaine promotion, en quelque sorte arbitraire et fictive du rapport sexuel, et que c'est là que prenant sa valeur et pose sa question. C'est tout de même une occasion ici, ne considérez pas que ceci s'en manche en quelque sorte d'une façon directe sur ce que je viens de rappeler, mais ces sortes de décalages sont proprement nécessités par le point où je vais vous mener. C'est une occasion et qu'ici se confirme, bien sûr, se confirme ceci, que la vérité ne progresse que d'une structure de fiction. C'est à savoir que, justement, dans son essence, c'est de ce que se proverbe quelque part une structure de fiction, laquelle est proprement l'essence même du regard, que quelque chose peut se produire, et qui est quoi? Mais justement, mais cette sorte d'interrogation, cette sorte de presse, de serrage, qui met la vérité, si je puis dire, au pied du mur de la vérification. Ça n'est rien d'autre que la dimension de la science. En quoi se montre justement, en fait, la voie se justifie, si je puis dire, la voie, voyons que la science progresse. La part qui prend la logique n'est pas mince. Qu'est-ce que soit le caractère caractère originellement, fondamentalement, foncièrement fictif de ce qui fait matériel, s'articule le langage. Il est clair qu'il y a une voie qui s'appelle vérification, c'est celle qui s'attache à saisir, où la fiction, si je puis dire, bute, et ce qui l'arrête. Il est clair qu'ici, quel que soit ce que nous a permis d'inscrire, vous verrez tout à l'heure ce que ça veut dire, le progrès, la logique, je veux dire la voie écrite par où elle a progressé, il est clair que c'est buté et tout à fait efficace de s'inscrire à l'intérieur même du système de la fiction, elle s'appelle la contradiction. Que si la science apparemment a progressé bien autrement que par les voies de la topologie, ça n'ôte rien à la portée de la remarque, à savoir que la mise en demeure portée d'un certain point à la vérité d'être vérifiable, c'est précisément cela qui a forcé d'abandonner toutes sortes d'autres prémices prétendument intuitives. Et si je ne vais pas y revenir aujourd'hui, je vais insister sur la caractéristique de tout ce qui a précédé, frayé la voie à la découverte newtonienne, par exemple. C'est bien très précisément ce que aucune fiction ne s'avérait satisfaisante, autre qu'une d'entre elles qui précisément devait abandonner tout recours à l'intuition et s'en tenir à un certain inscriptible. C'est donc en quoi nous avons à nous attacher à ce qu'il en est de l'inscriptible dans ce rapport à la vérification. Pour en finir, bien sûr, avec ce que j'ai dit de l'effet de la lettre dans la lettre volée, lequel je dis expressément, c'est qu'elle féminise ceux qui se trouvent en être dans une position qui est celle d'être à son nom. Bien sûr, c'est là que je touche l'importance de cette fonction de l'ombre. Pour autant, déjà la dernière fois, lorsque je vous ai annoncé de ce qui était précisément un écrit, je veux dire quelque chose qui se présentait sous forme littérale, littéraire. L'ombre serait produite à besoin d'une source de lumière. Est-ce que jamais vous a été sensible de ce que comporte l'aufklärung? De quelque chose qui garde structure de fiction. Il parle de l'époque historique. Bien sûr, la capacité, c'est donc une Il est ici et c'est ce que je fais, d'en retracer les voies ou de les reprendre, mais en elles-mêmes. Il est clair que ce qui fait la lumière, c'est précisément de ce qui part de ce champ, qui se définit lui-même comme étant celui de la vérité. Et c'est comme tel, en tant que tel, que la lumière qui nous répand à chaque instant du tel n'est avoir cet effet efficace de ce que ce qui fait opacité revient du nom, et que c'est cette ombre qui porte effet, que cette vérité elle-même, nous avons toujours à l'interroger sur sa structure de fiction. C'est ainsi qu'en fait, bon, il ressort que, comme c'est énoncé, expressément dans cet écrit, la lettre, bien sûr, ce n'est pas à la femme, dont elle porte l'adresse, elle satisfait en arrivant à sa destination, mais au sujet, à savoir très précisément, pour le redéfinir à ce qui est divisé dans le fantasme, c'est-à-dire à la réalité en tant qu'engendrée par la structure de fiction. C'est bien ainsi que se clôt le conte, tout au moins tel que dans un second texte, celui qui est le mien, je le refais, et c'est là que nous devons partir pour réinterroger plus loin ce qui en est la lettre. Très précisément à la mesure où ceci n'a jamais été fait, que pour le faire, je dois prolonger ce discours sur les lettres. Voilà ce dont il faut partir, et tout de même ceci. C'est que ce n'est pas en vain que nous sommes, ou que je vous somme de ne rien manquer, que ce qui se produit dans l'ordre de la logique. Ce n'est certes pas pour que vous obligiez, si on peut dire, à suivre les constructions et les détours. C'est en ceci que nulle part, comme dans ces constructions qui s'intitulent elles-mêmes d'être de logique symbolique, nulle part n'apparaît mieux le déficit de toute possibilité de réflexion. Je veux dire que rien n'est plus embarrassé, c'est bien ça que l'introduction d'un traité de logique. La possibilité qu'un logique de s'imposer elle-même de toute façon justifiable est quelque chose de tout à fait frappant. C'est à ce titre que l'expérience de la lecture de ces traités, ils sont d'autant plus saisissants, bien sûr, à mesure modernes, qui sont plus dans l'en avant de ce qui constitue effectivement et bien effectivement un progrès de la pas étrange, et c'est précisément dans ceci que c'est pas suggestif, car c'est bien là d'approfondir ce qu'il a. Et de saisir que si peut-être dans ce langage, bien de ce qui s'avance soi-même maladroitement comme étant de ce langage, disons, un usage correct, ne peut très précisément s'énoncer qu'à ne pas pouvoir se justifier que de la façon confuse. Par toutes sortes de tentatives qui sont par exemple celles qui consistent à diviser le langage en un langage objet et un métalangage, celui de ce que démontre toute la suite de ce voir qui n'a pas pris un seul instant. De parler de ce langage prétendument objet sans user bien sûr non pas d'un métalangage, mais bel et bien d'un langage qui est un langage courant. Mais dans cet échec même peut se dénoncer ce qui en est, que l'articulation, précisément, a le rapport le plus étroit avec le fonctionnement du langage, c'est-à-dire l'articulation suivante, c'est à savoir que le rapport sexuel ne peut pas être écrit. Donc, ce titre est la seule fin, si je puis dire, de faire quelques mouvements qui nous rappellent la dimension dans laquelle nous nous déplaçons. Je rappellerai ceci, à savoir comment d'abord se présente ce qui inaugure le tracé de la logique, à savoir comme logique formelle et dans Aristote. Bien sûr, je ne veux pas toujours reprendre encore que ça serait très instructif, ce serait très instructif d'après tout chacun de vous. Peut-être donner seulement la peine d'ouvrir les premiers analytiques qui se mettent à l'épreuve de cette reprise. Qu'ils ouvrent donc les premiers analytiques et ils y verront ce qu'est le syllogisme. Et le syllogisme, après tout, il faut bien dire, est-ce là que je reprends les choses, puisque à notre avant-dernière rencontre, c'est là-dessus que j'ai terminé. Je ne vais pas le reprendre en exemplifiant vers ceci, tant de limites, en exemplifiant toutes les formes de ce texte. Il me suffise de mettre en valeur rapidement ce qu'il en est universel. Et dans leur forme tout simplement affirmative. Je vais prendre le syllogisme dit d'Arrighi, c'est-à-dire en fait universel affirmative, et de deux particulières, c'est pour rappeler ce qu'il en est d'une certaine façon de présenter les choses. Sachez simplement que ici, rien en aucun cas ne peut fonctionner que de substituer dans la trame du discours, de substituer le signifiant, le trouble fait de le remplacer par la lettre. Car si nous énonçons ceci va nous occuper d'Arrighi. Que tout homme est bon. Le tout homme est l'universel. Et je vous ai assez souligné, assez préparé en tout cas, à entendre ceci que je sens plus le rappeler. L'universel n'a de ni besoin d'existence d'aucun homme. Tout homme est bon de vouloir dire qu'il n'y a d'homme que bon, parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas simple. Deuxième articulation, quelques animaux sont des hommes. Troisième articulation, qui s'appelle conclusion, la seconde étant la mineure. Quelques animaux sont donc bons. Clair. Que ceci spécifiquement ne tient que de l'usage de la lettre pour la raison que clair, que sauf à les supporter une lettre, il n'y a pas d'équivalence entre tout homme. Le totem sujet de l'universel, qui ici joue le rôle de le moyen terme, et ce même moyen terme à la place où il est employé comme attribut, à savoir que quelques animaux sont des hommes. Car, à la vérité, cette distinction qui mérite en fait demande néanmoins beaucoup de soin. L'homme de tout homme, quand il est le sujet, fonction de l'universel qui ne lui donne pour support très précisément que de son statut symbolique, à savoir que quelque chose s'énonce l'homme. Sous les espèces de l'attribut et pour soutenir que quelques animaux soient des hommes, dénoncer ce que nous appelons objet animal et très précisément cette espèce d'animal qui se trouve habité de l'organe. Bien sûr, il est à ce moment justifiable de poser que l'homme est bon. C'est une limitation. C'est une limitation très précise que ce sur quoi peut se fonder que l'homme soit bon tient à ceci. Mise en évidence ceci depuis longtemps et d'abord Aristote, que l'idée du bon ne saurait s'instaurer que du langage. Pour Platon, elle en est au fondement. Il n'y a pas de langage d'articulation possible, puisque pour Platon, le langage, c'est le monde des idées. Il n'y a pas d'articulation possible sans cette idée primaire du bien. Il est tout à fait possible d'interroger autrement ce qu'il en est du bon dans le langage. Et simplement, dans ce cas, d'avoir à déduire les conséquences qui en résulteront pour la position universelle de ceci, que l'homme est bon comme
s'instit. Puis quelque part, vous êtes bon.
Coupure milieu de bande.
La mise en question de ce qui est aussi bien discours, c'est bien peut-être le fait que changement d'accent qui a pu être pris quant à l'usage du mot bon. C'est trop bandit. Le vous êtes bon à sa valeur absolue. En fait, c'est ça le lien central. Il y a du bon au discours. Un certain type de discours, bah, c'est bon pour qu'il vous commande.
Sujet à la parole.
est assimilé aux substances, sous la forme suivante, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son veuf, ni son âne, de la femme d'une énumération. Ceci, je crois, pour vous donner l'occasion d'y aller, de réfléchir, en rapprochant vous faire marquer là, en passant, de ce qu'autrefois, ça veut bien vous dire, de ce qui s'exprimait dans les commandements, à savoir rien d'autre que les lois de la paix. Qui limite leur interne. Mais il est très important justement de limiter l'intérêt des choses que de savoir pourquoi vraiment elles portent. Donc, eh bien, ceci est dit parfois, comme j'ai vu, c'est-à-dire par un frayage, comme d'habitude, n'est-ce pas, ce que je suis pensé de faire. Du grand arbre versé de la tête de buffle du bout d'Auxerre. Je passe à l'étape suivante, à savoir à ce que nous permet d'inscrire le progrès de la logique. Vous savez qu'il est arrivé quelque chose, d'ailleurs, très très beau, quelque chose. Un peu plus de 10 ans, qu'il est arrivé quelque chose qui s'appelle une réinscription de ce premier essai fait par le moyen des trous portés à la place, c'est-à-dire par le remplacement des termes par lettres, des termes dits majeurs mineurs, des termes dits extrêmes. Terme majeur et mineur étant des propositions, donc pardon, c'est l'absurde. Donc, alors, vous savez qu'avec une logique inaugurée par de nombreux boules, nous sommes arrivés, inaugurés seulement par eux, non pas poussés à leur dernier point, nous sommes arrivés aux formules dites quantificatrices. Quoi ? Qu'est-ce qu'il n'entend pas ? Personne ? Il y a longtemps que vous n'entendez pas. Donc vous allez au tableau. Ah oui. Donc jusqu'à présent, ça allait. Oui. Vous suis reconnaissant. Alors, écoutez, j'ai écrit rapidement et puis je vais revenir là. Yeah. opération d'inscription complète. Celle qui a permis, suggéré le progrès de la mathématique. C'est de ce que la mathématique soit arrivée par l'algèbre à s'écrire entièrement. De se servir de la lettre pour autre chose que pour faire des trous. C'est-à-dire à écrire autrement nos quatre espèces de propositions autant qu'elles sont centrées du tout, du quelque, à savoir de mots. Je ne ferai vraiment pas difficile de vous montrer des ambiguïtés sous ça. Alors, à partir de cette idée, on a écrit ce qui se présentait d'abord comme sujet. À condition de l'affecter de ce grand art renversé, nous pouvions le prendre pour équivalent à tout X. Et que dès lors, ce dont il s'agissait, c'était de savoir dans quelle mesure un certain tout X pouvait satisfaire un rapport de fonction. Je pense que je n'ai pas besoin ici de souligner, d'autant il faut bien que je le fasse, parce que tout ceci paraît très vide, que la chose a tout à fait son plein sens en mathématiques. À savoir que, justement, tant que nous restons dans la lettre, où gît le pouvoir de la mathématique, cet X de droite, autant qu'il est inconnu, peut légitimement être posé ou pas posé, comme pouvant trouver sa place dans ce qui la fonction qui lui répond, c'est à ça. Là où Smenix est pris comme variable. Pour aller vite, parce que je vous dis, l'heure avance, je vais l'illustrer. J'ai souligné, je l'ai dit, énoncé que l'X est à bord dans l'art de X nommément est une inconnue. Prenons par exemple la racine d'une équation du second degré. Bon, est-ce que je peux écrire pour toute racine d'une équation du second degré qu'elle peut s'inscrire dans cette fonction qui définit l'X comme C'est en tout cas pour cela tous les nombres qu'ils connaissent. Y compris les nombres irrationnels, même s'ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent simplement qu'avec les nombres réels, enfin, on en a fini, on leur a donné un statut. Comme ils ne soupçonnent pas ce que sont les nombres imaginaires, je leur indique que pour leur donner l'idée que ça vaut la peine de faire une fonction des nombres réels. Bon. Et bien, il est tout à fait clair qu'il n'est pas vrai que pour tout AX, savoir toute racine de l'équation du second degré, on puisse dire que toute racine de l'équation du second degré s'applique face à la fonction dont se fondent les nombres réels. Il y a des racines de l'équation du second degré qui sont des nombres imaginaires, qui ne font pas partie de la fonction des nombres réels. Bon, ce que je veux vous souligner, c'est ceci. C'est qu'avec ça, on croit en avoir assez dit. Eh bien non. On n'en a pas assez dit, car aussi bien pour ce qui est des rapports sous X, que du rapport qu'on croit pouvoir substituer au quelque, à savoir dont on veut se satisfaire dans l'occasion, à savoir qu'il existe des racines de l'équation du second degré qui satisfont à la fonction des nombres réels, et aussi qu'il existe des racines de l'équation du second degré qui ne satisfont pas. Mais, dans un cas comme dans l'autre, ce qui en résulte, loin que nous puissions voir ici la transposition purement formelle, l'homologie complète des universels et des particulières affirmatives et négatives respectivement, c'est que ce que ceci veut dire, c'est non pas que la fonction n'est pas vraie. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'une fonction n'est pas vraie? Du moment que vous écrivez une fonction, elle est cette fonction. Même si elle déborde beaucoup la fonction des nombres réels, ceci veut dire que concernant l'inconnu que constitue la racine de l'équation du second degré, je ne peux pas écrire pour l'y loger la fonction des nombres réels. Ce qui est bien autre chose que l'universel négatif, dont les propriétés d'ailleurs, était déjà bien faite pour nous la permettre en suspens. J'ai assez souligné en son temps. Il est exactement de même au niveau de il existe un X. Il existe un X à propos duquel il existe certains X, certaines racines de l'équation du second degré, à propos desquelles je peux écrire la fonction dite des nombres réels en disant qu'elle satisfont. Il en est d'autres à propos desquelles il ne s'agit pas de nier la fonction des nombres réels, mais à propos desquels
Je ne peux pas décrire la fonction des nombres réels. Et c'est de ça que ça nous a traduit. Troisième étape, qui est celle de la somme de ce que je viens de dire aujourd'hui, est faite bien sûr pour vous introduire. C'est que, comme vous l'avez bien vu, je glisse tout naturellement à me fier au souvenir de ce qu'il s'agit de réarticuler. J'ai glissé. À l'écrire, à savoir que la fonction, avec cette petite barre au-dessus, symbolisait quelque chose de tout à fait inepte au regard de ce que j'avais effectivement à dire. Bon. Ben, vous avez peut-être remarqué que vous n'avez même pas pu à l'idée, au moins jusqu'à présent, et non plus, de penser que la barre de la négation peut-être avait quelque chose à faire, à dire, dans la colonne, non pas de droite, mais de gauche. Essayons. Quel parti peut-on tirer? Qu'est-ce qu'on peut avoir à dire à propos de ceci, où la fonction ne varierait pas, appelons-la phi de x comme par hasard, et admettre ce que nous n'avons jamais eu à faire jusqu'à présent, la barre de la négation. Dite ou bien écrite. Commençons par la vie. Ce n'est pas de tout X fonction phi de x peut s'inscrire. Ce n'est pas d'un x existant que la fonction phi de x peut s'écrire. Yeah. l'exclus. Et comme s'exprimait autrefois quelqu'un qui était un grammairien assez fin, c'est fort clusif. La fonction ne sera pas écrite. Je ne veux rien en savoir. Ce n'est pas en tant que il y aurait un tout X, que je peux écrire ou pas écrire phi de X. Ce n'est pas. En tant qu'il existe un X, que je peux écrire ou pas écrire phi de X. Ceci est très proprement ce qui nous met au cœur de l'impossibilité d'écrire ce qu'il en est du rapport sexuel. Car, après que subsisté pendant des temps concernant ce rapport les structures de fiction bien connues, celles sur lesquelles repose toutes les religions, nous en sommes venus, ceci de par l'expérience analytique, à la fondation de ceci, que ce rapport ne va pas sans tiers terme. Qui est à proprement parler le phallus. Bien entendu. J'entends, si je puis dire, certaines comprenettes se formuler avec ce terme de ma tout seul. Justement, il y a un terme, c'est pour ça qu'il peut y avoir un rapport. Très difficile, bien sûr, d'imager ça, de montrer qu'il y a quelque chose d'inconnu qui est là l'homme, qu'il y a quelque chose d'inconnu qui est là la femme, et que le tiers terme, en tant que tiers terme, il est très précisément caractérisé par ceci, c'est que, justement, il n'est pas un médium. Que si on le relie à l'un des deux termes, le terme de l'homme, par exemple, on peut être certain qu'il ne communiquera pas avec l'autre. Et inversement. Que c'est spécifiquement là ce qui est la caractéristique du tiers terme. Bien entendu, si même on a inventé pour la fonction l'attribut, pourquoi ce serait-il pas rapport dans les premiers pas ridicules de la structure de semblant que tout homme est fallu. femme ne l'est pas. Or, ce qui est à établir, c'est bien autre chose. C'est que quelque homme l'est. À partir de ceci, qu'exprime ici la seconde formule, à partir de ceci que ça n'est pas en tant que particulier qu'il l'est. L'homme est fonction phallique. En tant qu'il est tout homme. Et comme vous le savez, il y a les plus grands doutes à porter. Homme existe. C'est ça l'enjeu, c'est qu'il peut l'être au titre de tout homme, c'est-à-dire d'un signifiant, rien de plus. Que par contre, que j'ai énoncé ce que je vous ai dit, c'est que pour la femme, l'enjeu est exactement le contraire. À savoir ce qu'exprime l'énoncé discordantiel du haut. Celui que je n'ai écrit, si je puis dire, que sans l'écrit, puisque je vous souligne qu'il s'agit d'un discordantiel qui ne se soutient que de l'énoncé, c'est que la femme ne peut remplir sa place dans le rapport sexuel. Elle ne peut l'être qu'au titre d'une femme. Je l'ai fortement accentué. Il n'y a pas de toute femme. Ce que j'ai voulu aujourd'hui frayer, vous illustrer, c'est que la logique porte de la marque, de l'impasse sexuelle. C'est qu'à la suite, dans son mouvement, dans son progrès, c'est-à-dire dans le champ, où elle paraît avoir le moins à faire, avec ce qui est en jeu dans ce qui s'applique de notre expérience, à savoir l'expérience analytique, vous y retrouvez les mêmes impasses, les mêmes obstacles, les mêmes béances, la même absence de fermeture d'un triangle fondamental. Mais tant que les choses, je veux dire le temps, est avancé si vite,
avec ce que j'avais à vous frayer aujourd'hui et que je dois maintenant m'interrompre, je pense qu'il vous sera facile peut-être, dès avant que nous en voyons le deuxième mercredi du mois de juin, de vous apercevoir vous-même de l'inconvenance de ceci, d'où résulte. D'où résulte, par exemple, que rien ne peut être fondé du statut de l'homme, je parle vu de l'expérience analytique. Qu'à faire artificiellement, mythiquement, ce tout homme avec celui présumé, le père mythique du totem étable, de savoir celui qui est capable de satisfaire à la jouissance de toutes les femmes les inversements, ce sont les conséquences dans la position de la femme de ceci. Que ce n'est qu'à partir d'être une femme qu'elle puisse s'instituer dans ce qui est inscriptible de ne le pas l'être, c'est-à-dire restant béant de ce qu'il en est du rapport sexuel, et qu'il arrive ceci, si lisible. Dans ce qu'il en est de la fonction combien précieuse des hystériques. Les hystériques sont celles qui, sur ce qu'il en est du rapport sexuel, disent la vérité. Comment aurait pu se frayer cette loi de la psychanalyse si les pas que la névrose, qu'une névrose tout au moins, je la démontrerai également pour l'autre, qu'une névrose ne soit strictement le point où s'articule la vérité d'un échec, qui n'est pas moins vrai partout ailleurs que là où la vérité est dite, c'est là que nous devons partir pour donner son sens à la découverte freudienne. L'hystérique articule. C'est bien sûr ceci. Que pour ce qui est de faire le tout homme, elle en est aussi capable que le tout homme lui-même, à savoir par imagination. Donc, de ce fait, elle n'en a pas besoin. Mais que si par hasard, ça l'intéresse, savoir ce dont elle se conçoit comme châtrée, comme Freud l'a assez souligné, que par le progrès du traitement de l'idée, il y en a fait. Puisque c'est son sens, il ne veut pas voir qu'elle l'a pas de son côté. Et que si par
peut s'y intéresser que par rapport. Alors, en tant qu'il n'est pas sûr qu'il y en ait même un, sera tourné vers ce que j'appelle en avoir au moins un. Nous sommes l'au moins un, c'est l'absurde, mon Dieu. Avec ce que déjà, bien sûr, vous voyez là, déjà articulé, à savoir celle que là en plus, qui n'est pas ailleurs qu'ici, n'est-ce pas, telle que je l'ai écrit la dernière fois. C'est pas pour rien, je l'ai écrit ainsi, je pense, pour tout le monde, en termes d'un, je l'ai écrit à des l'au moins celle, comme fonction essentielle, rapport en tant que situe la part, rapport au pointer ternaire clé de la fonction palme. Nous l'écrirons de cette façon parce qu'elle est inaugurale, inaugurale d'une dimension dans laquelle j'ai insisté pour un discours qui ne serait pas du semblant, l'homme moins un.